en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'émission En séance qui vous emmène tous les jours au cœur de l'Institut de France à Paris, quai de Conti précisément dans le 6e arrondissement. Séance publique de l'Académie des sciences morales et politiques tous les lundis à 15h autour d'un thème de travail annuel défini pour 2005 par le président cette année, Monsieur Jean Tullard, l'historien Jean Tullard. Faut-il faire confiance aux historiens ? Et le lundi 10 octobre dernier, c'est Madame Françoise Chandernagor qui s'exprimait devant l'Académie des sciences morales et politiques, l'écrivain Françoise Chandernagor. Voici sa communication intitulée « Peut-on écrire des romans historiques ?» Nous rejoignons tout de suite la salle des séances.
Monsieur le chancelier, monsieur le chancelier honoraire, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les académiciens, peut-on écrire des romans historiques ? Se poser la question, se la poser encore aujourd'hui, c'est déjà presque y répondre. Puisque il y a bien 2 siècles et presque 3 qu'on ne se demande plus s'il est légitime d'écrire des romans, comme disent nos lecteurs. En revanche, pour le roman historique, le doute subsiste, et quand je parle de doute, je devrais plutôt parler de suspicion, et même peut-être de réprobation. Oh, pas de la part des lecteurs, qui ont fait très vite un succès, un triomphe au genre dès ses balbutiements. Je pense au Grand Cyrus de Mademoiselle de Scudéry ou à la Cléopâtre en 12 volumes de la Calprenède. Mais la critique n'a pas été aussi facile à conquérir. Elle s'est déclarée très vite réticente. Diderot, le premier, je crois, tense véhémentement les auteurs. Le roman historique est un mauvais genre. Vous trompez l'ignorant, vous dégoûtez l'homme instruit, vous gâtez l'histoire par la fiction et la fiction par l'histoire. 60 ans plus tard, c'est au tour de Théophile Gautier de s'indigner. Walter Scott est mort. Dieu lui fasse grâce, mais il a mis à la mode le plus détestable genre de composition qu'il soit possible d'inventer. Le nom seul a quelque chose de difforme et de monstrueux qui fait voir de quel accouplement antipathique il est né, le roman historique, c'est-à-dire la vérité fausse ou le mensonge vrai. Ce jugement sévère n'allait tout de même pas empêcher Gautier de faire peu après, comme créateur, ce qu'il avait condamné, comme critique, ce sont des choses qui arrivent, publier 2 romans historiques, le roman de la momie et le capitaine fracasse. Enjambons 1,5 siècle de vie littéraire pour en arriver à la condamnation sans appel, prononcée par un critique, je crois, un peu fâché des succès de Marguerite Yourcenar. Le roman historique est un genre mixte, dit-il. Or, les genres mixtes ne relèvent pas de l'art littéraire. Pressé de jeter le roman historique et Marguerite Yourcenar aux orties, je crois que l'éminent critique ne s'est pas rendu compte qu'il l'envoyait par la même opération dans les oubliettes, le conte philosophique et le roman épistolaire, qui sont des genres mixtes à ma connaissance. Et voilà comment, dans les années 1980, ont été boutés hors du champ de la littérature Candide et les liaisons dangereuses. Heureusement, les professeurs de lettres n'en ont rien su. Venons-en à 2005. Nous avons changé de siècle, nous avons même changé de millénaire. Tout change, sauf apparemment l'horreur qu'inspire aux bons esprits le monstre qui est toujours vivant, il a la peau dure. Sous la plume de Charles Danzig, auteur d'un dictionnaire égoïste de la littérature française, paru le mois dernier, au demeurant excellent ouvrage dont je vous recommande la lecture, sous sa plume, on lit, oh, sans surprise, à l'article roman historique, « Je crois impossible d'écrire un bon roman historique, ou alors il n'est pas historique. » Ça, c'est un raisonnement, enfin, on pourrait discuter. « Si le roman se passe au XVe siècle, dit-il, on vous décrit la hallebarde, le pourpoint, les aiguillettes. Est-ce que, dans un roman se passant aujourd'hui, l'auteur consacrerait autant de temps à décrire une voiture, un pistolet, un jean ? D'ailleurs, les dialogues de ces romans sont encore de la hallebarde Tudieu, dit le capitaine des gardes, vous me la baillez belle. Pour de rien vous cacher à cet endroit, j'attendais plutôt le sempiternel « Hola, tavernier du diable !» Une phrase qu'aucun romancier, pas même Dumas, n'a jamais écrite, mais qu'on trouve ressassée comme une excellente plaisanterie dans toutes les diatribes dirigées contre les épigones de Walter Scott ou de Zoé Oldenburg. Cela dit, je me garderai bien de nier que certains romans historiques médiocres soient écrits dans le style hallebarde. Je ne chercherai pas davantage à m'abriter derrière les contradictions des détracteurs du genre pour éluder la question de fond. Le roman dit « historique » est-il possible conceptuellement ? Est-il permis moralement ? Est-il respectable esthétiquement ? N'y a-t-il pas antinomie, antipathie, dirait Gautier, entre la notion d'histoire et celle de roman ? Le voyage dans le passé ne détourne-t-il pas le lecteur des problèmes de l'heure ? Le romancier ne verse-t-il pas nécessairement dans la facilité ? Avant d'aller plus loin, je voudrais vous préciser les définitions, parce que je ne vais pas suivre celles, trop réductrices à mon sens, des dictionnaires. Pour le grand Robert, est un roman historique, un roman dont l'intrigue est empruntée à l'histoire. Et pour le Larousse, un roman dont le sujet s'inspire plus ou moins exactement d'événements historiques. Cette définition convient en effet à certains romans historiques. Par exemple, ça convient très bien au Saint-Mars de Vigny, récit romancé d'une conspiration suivie d'une exécution capitale, lesquelles ont effectivement eu lieu. C'est une définition aussi qui vaudrait pour la bataille de Rambaud, récit sur le mode romanesque du déroulement de la bataille d'Essling. Mais enfin, cette définition ne s'applique pas du tout à Notre-Dame de Paris. Quand donc ont existé ce Quasimodo, cette Esmeralda retranchée dans la cathédrale ? Ça ne convient pas du tout à Ivanhoé, à Barry Lyndon, même pas à Angélique Marquise des Anges, à L'œuvre au noir, à Autant en emporte le vent, au guépard, à Caroline Chéry, au nom de la rose, à la guerre du feu, ni d'ailleurs au 9/10 de ses romans, bons ou mauvais, vous voyez que je prends dans les deux genres, que le public range spontanément dans la catégorie historique. Contrairement, en effet, à ce que croient les rédacteurs des dictionnaires, le roman historique n'est pas un roman sur l'histoire, mais un roman dans l'histoire. Un roman qui peut bien sûr s'inspirer d'événements ou de personnages authentiques, mais qui le plus souvent nous conte une action imaginaire accomplie par des personnages inventés. La seule donnée propre au genre est que cette intrigue, authentique ou fictive, est dans tous les cas placée dans le passé et que, à la différence de ce que nos lecteurs appellent aussi le roman contemporain, à la différence du roman contemporain, le roman historique exige de son auteur la recréation, avec ou sans hallebarde, d'une époque révolue. Encore faut-il souligner que cette frontière entre roman historique et roman contemporain est elle-même mouvante, puisque sans cesse l'histoire nous rattrape. Tel sujet, qui pour un romancier, vu son âge, sera du contemporain, c'est-à-dire quelque chose qu'il a vécu, qu'il n'a pas besoin d'aller chercher dans les archives, sera pour un autre, plus jeune, de l'historique. Par exemple, le roman 1941, écrit par Marc Lambron, romancier né après la guerre, est un roman historique. Alors que, pour Julien Gracq, né en 1910, Un balcon en forêt, dont l'action se passe en 1940, est un roman contemporain. De même, on admet généralement que Balzac, né en 1799, quand il écrit Les Chouans, signe un roman historique. Mais on ne remarque jamais que Patrick Modiano, né en 1945, quand il écrit sur l'occupation, et Dieu sait s'il a écrit sur cette période, qui est vraiment sa période d'élection, si on peut dire, fait, lui aussi, du roman historique. En somme, ce que je vous propose, c'est une définition de praticienne. Parce que je sais bien que si j'adoptais le point de vue des dictionnaires, je devrais, au sein de ce que j'ai moi-même publié, opposer par exemple l'Enfant des Lumières, intrigue inventée, à La Chambre, événement historique. Or, je suis bien placée pour savoir que ces deux romans, tous les deux situés à la fin du XVIIIe siècle, m'ont demandé le même type de travail, un travail de recherche, proche de celui de l'historien. Alors, c'est peut-être là justement que le bât blesse. Un romancier peut-il se faire historien ? Un historien peut-il se faire romancier ? N'y a-t-il pas, entre histoire et roman, une opposition conceptuelle irréductible, celle que de prime abord signalait Théophile Gautier ? D'un côté, les faits, de l'autre, la fiction, res facte et res ficte, disaient les Romains. D'un côté, la vérité, de l'autre, l'invention. L'histoire, en somme, s'opposerait au roman comme une science à un art. Pas question de les confondre, pas question de les mêler. Et il est vrai que personne, en tout cas pas moi, n'oserait parler d'un roman chimique, ni d'un roman, encore que pour un roman qui aurait du mouvement peut-être, d'un roman électrodynamique, ni même, quoiqu'il y ait beaucoup de rencontres plus ou moins amoureuses, d'un roman botanique. Mais l'histoire est-elle bien une science ? Il est certain qu'au XIXe siècle, on a espéré qu'elle le deviendrait. D'où peut-être le discrédit jeté alors sur le roman historique dans les milieux éclairés. Mais aujourd'hui, les épistémologistes n'hésitent pas à souligner que l'histoire n'est pas, et ne sera sans doute jamais, une discipline scientifique, c'est-à-dire, pour reprendre là la définition des dictionnaires, un ensemble de connaissances d'une valeur universelle, caractérisée par un objet déterminé, fondé sur des relations objectives vérifiables, et exprimé par des lois qui rendent possible la prévision. L'histoire n'a pas d'objet particulier, car tout dans la vie des hommes peut être objet d'histoire. L'histoire ne permet pas l'expérimentation, elle ne dégage aucune loi et elle n'est pas prédictive. Comme on dit vulgairement, l'histoire ne repasse pas les plats. De tout ça, les historiens modernes sont bien conscients. Dans son remarquable essai « Comment on écrit l'histoire », l'historien Paul Venn admet, je le cite, « L'histoire n'est pas une science. Tant que l'historien raconte son histoire en toute simplicité et n'exige pas de sa plume plus que n'exigerait un romancier, à savoir qu'elle fasse comprendre, tout va bien. Tout va mal, au contraire, dès qu'il essaye d'en faire plus, de ressaisir en conclusion les principes de ses explications, de généraliser, d'approfondir. » Entre l'explication historique et l'explication scientifique, il n'y a pas une nuance, il y a un abîme. L'histoire n'a pas de méthode, l'histoire ne peut formuler son expérience sous forme de définition, de loi et de règles. L'histoire est un art. Fin de citation. Entre l'histoire et le roman, il n'y aurait donc pas de différence de nature. La proximité de ces deux arts serait d'ailleurs d'autant plus grande qu'ils travaillent sur le même support, tentent de mettre en forme la même matière. Cette matière, c'est l'homme. L'homme, oui, n'en déplaise aux tenants du défunt nouveau roman. L'homme est le vrai, l'unique sujet du roman. Il se trouve qu'il est aussi le sujet de l'histoire. Écoutons Marc Bloch. Ce sont les hommes que l'histoire veut saisir. Qui n'y parvient pas ne sera jamais au mieux qu'un manœuvre de l'érudition. Le bon historien, lui, ressemble à l'ogre de la légende. Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier. Cet ogre, affamé de chair humaine, c'est aussi le romancier. Et la chair humaine que goûtent l'historien et le romancier n'est pas celle, plus abstraite, plus universelle, de l'anatomiste ou du biologiste. La chair humaine qui les fait saliver, c'est la chair humaine plongée dans le temps. On n'a pas attendu Proust pour se douter que le cœur du roman, c'est l'individu livré au temps comme on est livré aux bêtes, l'homme happé par la mort. Le roman a pour objet premier le passage du temps. Là réside d'ailleurs, à mon avis, sa supériorité sur le cinéma. Le cinéma est action. C'est du reste le mot qu'emploient les réalisateurs américains pour lancer le moteur de leur caméra. Action et non pas durée. Les romans sont de la durée mise en mots. Même lorsqu'ils malmènent la chronologie, usent du flashback et du collage, les romans se déroulent comme la vie, ils se déroulent comme l'histoire, et ils nous donnent à voir le temps. Sur courte période, et la vie humaine est une courte période, le temps n'est visible que s'il trouve des corps à sculpter, des corps à détruire. Le roman fournit des corps, corps imaginaires, corps virtuels. Et l'histoire fournit le temps. Comment les séparerait-on ? Non seulement le roman historique, fruit de leur union, n'a rien de contre-nature, rien qui semble interdit par la philosophie et la pratique des historiens, mais d'un point de vue strictement littéraire, le roman historique pourrait bien être la quintessence du genre romanesque. Le sujet du roman, disais-je, c'est le temps qui passe. Eh bien, le roman historique, c'est du temps qui passe à l'intérieur d'un temps passé, du temps au carré. Le sujet du roman, c'est l'homme mortel. Eh bien, le roman historique, c'est l'homme mortel à l'intérieur d'une société déjà morte. Ah, il ne faudrait peut-être pas me pousser beaucoup pour que j'entreprenne de vous démontrer que le roman historique, c'est le roman absolu. En tout cas, une preuve de plus, quand Gautier, pour stigmatiser le genre, le qualifiait de « mensonge vrai », il ne pouvait pas, bien sûr, savoir qu'il anticipait la définition qu'Aragon donnerait plus tard avec enthousiasme de l'art même du romancier, de tout romancier, un mentir vrai. Et quel est de tous les romans le plus menteur et le plus vrai ? Le roman historique. Aragon finit sans doute par s'en aviser puisqu'il illustra brillamment le genre en écrivant « La semaine sainte » dont l'intrigue se situe au début des 100 jours et qui est, à mon sens, chacun ses goûts, son meilleur roman. L'obstacle conceptuel ainsi levé, reste à savoir si ce roman idéalement possible est un roman permis, sur le plan moral et esthétique. Parce que ce n'est pas seulement une suspicion théorique qui a dès l'origine plané sur le roman historique, mais un soupçon quasi politique. Ce genre romanesque entraînait dans la faute aussi bien son lecteur qu'il distrayait des vrais problèmes, que son auteur qui l'empêchait de témoigner. Bien sûr, dans un premier temps, nous le savons, c'est le roman, toute catégorie confondue, qu'on a condamné pour futilité. On le suspectait de détourner les lecteurs, les lectrices surtout, ces esprits plus faibles, de la contemplation de leur fin dernière, ça c'est le reproche du grand siècle, ou de l'observation de la société, ça c'est le reproche, je dirais, de l'ère industrielle. Pourtant, on a fini par découvrir au fil des ans que le roman ne se réduisait pas au roman d'amour. Dostoïevski rachète Madame Riccoboni, Malraux compense Delhi. Mais le roman historique, lui, est resté irrémédiablement entaché de frivolité. Une affaire de costume, peut-être. Trop de crinolines, de guêpières, de toges galamment retroussées. Il n'empêche qu'il s'agit là encore d'une critique simpliste. Certes, il existe un roman historique léger, un roman d'évasion, divertissement exotique, comment peut-on être carthaginois, distraction à bon marché, les amours d'Aliénor, les amours de Zénobie, encombrés d'un bric-à-brac un peu kitsch. Mais au cinéma, le succès des péplums et des films de Capet-d'Épée n'a jamais discrédité Visconti ou James Ivory. Le roman historique n'est pas, par nature, moins apte que les autres genres romanesques à exprimer les interrogations et les angoisses des hommes. Au contraire même, puisqu'il a, plus que tout autre, partie liée avec la mort, la ruine, l'oubli. Dans un roman historique, quand commence le récit, tout est déjà consommé, et depuis si longtemps. Ce n'était donc sans doute pas essentiellement pour nous convaincre que les robes du Premier Empire étaient charmantes, que Tolstoï a écrit « Guerre et paix », roman historique, puisque l'action se situe à une époque antérieure, sensiblement antérieure à la naissance de l'auteur, et Yourcenar, dans ses mémoires d'Adrien, parvient à nous faire traverser, à la suite de son empereur, toutes les légions romaines, sans nous infliger la moindre description de pilum, de scutum et autres parabellum. Charles Danzig peut remballer sa hallebarde et les émules de Bossuet rengainer leurs critiques. Dans les bons romans historiques, il y en a. Le décor importe moins que les personnes, on ne cherche pas à cacher la condition humaine derrière les falbalas. Quant aux héritiers du naturalisme, aux survivants de l'existentialisme, au dernier carré de la littérature engagée, ceux pour qui le premier et même le seul devoir du romancier est de s'intéresser à l'actualité et d'agir sur le monde, qu'ils se rassurent. Pour y parvenir, l'écrivain n'a pas besoin de se lancer dans la fresque contemporaine. Tous les romans À quelque genre qu'ils se rattachent tous, y compris le roman intimiste, le roman fantaisiste ou le nouveau roman, témoignent, fût-ce à l'insu de leurs auteurs, des préoccupations et des combats de leur temps. Même le roman d'anticipation, même celui-là, renseignera l'historien du futur sur la société contemporaine de sa publication. Voyez, par exemple, à quel point la science-fiction américaine des années 50 reflète les circonstances de la guerre froide. C'est incroyable ce que les martiens, les méchants martiens, ont à nous dire sur le rideau de fer. Là, d'ailleurs, réside l'une des pires difficultés que puisse rencontrer le romancier désireux de ressusciter le passé. Il risque, malgré lui, de nous donner à voir un passé d'époque, de son époque. Est-ce qu'il y a, au fond, rien de plus Second Empire, jusque dans ce que j'appellerais l'ameublement, rien de plus Second Empire que Salammbô ? Et rien de plus classique, de plus janséniste, au fond, que la princesse de Clèves, dont je vous rappelle que l'action est située sous Henri II. Et que dire du Moyen-Âge, furieusement troubadour et 1830, que nous ont proposé tant d'auteurs romantiques? C'est que le roman historique, loin d'être un genre facile, est l'un des exercices les plus périlleux qui soit. Les pièges et les contraintes y sont plus nombreux que dans toute autre forme romanesque. La première contrainte, c'est celle du réel. Bon, le réel entrave toujours le romancier. Le réel l'embarrasse. Je me souviens d'un aveu de Jean Giono à un journaliste qui l'interviewait. « Il n'y a pas, disait-il, de relation d'amitié entre la réalité et la création. Quand j'essaie d'intégrer la réalité à un récit inventé, la réalité me gêne constamment. Je suis obligé de la modifier peu à peu. » Mais dans un roman historique, pas question de la modifier, la réalité. La marge du créateur est encore plus réduite que dans un roman-roman. Et à l'intérieur même du roman historique, cette marge sera d'autant plus étroite que le romancier aurait mis en scène des personnages ayant existé. J'avais bien sûr les coudées plus franches quand j'écrivais « Couleur du temps » ou « L'enfant des lumières » que lorsque je rédigeais « L'allée du roi » inspirée de la vie de Madame de Maintenon ou « La chambre » sur la fin du jeune Louis XVII. Mais dans tous les cas, si le romancier ne veut pas que les biographes et historiens de la période lui tombent sur le dos, il ne peut plus s'amuser, comme Dumas, à violer l'histoire. On ne lui pardonnerait pas. Toute liberté prise avec les événements historiques passerait pour une erreur. L'auteur doit en outre s'attacher à éviter les anachronismes, les prémonitions rétrospectives, cette plaie des mauvais romans et des mauvais films historiques. Je me souviens d'un film, notamment, qui, placé en 1719, prédisait très doctement la révolution de 89. Et ça, c'est étonnant, pas moins étonnant que si en 1900, on nous avait prédit le premier choc pétrolier et ses conséquences. À une époque, on n'utilisait pas d'essence. C'est très fort, mais enfin, c'est à éviter. Il faut aussi éviter l'exotisme. Parce que du romancier du passé, on est en droit d'exiger qu'il ait intégré les derniers développements de la méthode historique. Et notamment, ce qui nous concerne, par exemple, l'histoire des mentalités. Or, rien n'est moins exotique que la vie quotidienne pour quelqu'un qui la vit. Ne prêtons pas aux hommes d'autrefois nos propres étonnements. Par exemple, un Carthaginois qui, selon la coutume, sacrifie aux dieux son enfant premier-né, accomplit une simple formalité. Il agit en bon citoyen et même, j'ose le dire, en bon père. En bon père pour les enfants à venir, que ce sacrifice protégera. N'excluons pas toutefois que cette formalité, sans soulever chez lui le moindre problème de conscience, puisse lui être légèrement désagréable. En bon citoyen, nous déclarons nos revenus, nous payons nos impôts, ça ne nous amuse pas. Par ailleurs, comme un bébé naît pour un contemporain d'Hannibal, ni un animal nuisible, ni un animal comestible, on peut penser que tuer son enfant ne procure pas un vif plaisir à notre Carthaginois. Mais comment devrions-nous le montrer, ce père infanticide, dans un roman, si nous avions à le faire? Peut-être comme un homme qui éprouve la satisfaction du devoir accompli, une satisfaction d'autant plus grande que le devoir lui a paru plus ingrat? À moins qu'il n'ait oublié très vite cet acte, somme toute, banal, et presque abstrait, si comme il est probable, il en a délégué l'exécution à des esclaves et à des prêtres. Les mains propres et l'âme en paix, notre Carthaginois n'est pas un monstre, c'est un homme civilisé, civilisé autrement que nous, voilà tout. Il ne faut pas devenir historien ni romancier de l'histoire si l'on n'a pas l'ouverture d'esprit d'un ethnologue. Pas question donc, si vous placez vos romans dans le passé, de modifier les faits ni de les surinterpréter. Vous devez respecter le réel et même le respecter assez pour le comprendre. Une fois cette limite acceptée, restent à résoudre de nombreux problèmes de technique romanesque que l'auteur de roman-roman, ce bienheureux, n'a même pas à se poser. L'un des plus délicats, et tous les détracteurs du genre ont mis le doigt dessus, évidemment, c'est le problème des dialogues. Même Paul Veyne, qui dans « Comment on écrit l'histoire » se plaît à souligner l'étroite parenté entre le travail de l'historien et celui du romancier, constate à regret « Le roman historique le mieux documenté hurle le faux dès que les personnages ouvrent la bouche ». L'affaire, en effet, n'est pas simple. Il est souhaitable, évidemment, d'éviter les anachronismes de langage. Mais il est souhaitable aussi d'éviter un trop grand décalage entre le style de la narration et celui des dialogues. Comment faire pour que des personnages parlent leur langue, celle de leur époque, et la parlent sans ridicule, tandis que le romancier, lui, va continuer de parler la sienne, qui est forcément sensiblement plus tardive. Plus tardive, sauf si, à l'intérieur du genre du roman historique, le romancier a opté pour le sous-genre, relativement récent, il date des années 30, des mémoires imaginaires, du type « Moi, Claude Empereur »,« Mémoire d'Adrien » ou « L'allée du roi ». Ah, là, miracle, tout s'harmonise, bien sûr. Mais c'est un choix qu'un même romancier ne peut pas faire deux fois. Finalement, la solution dépend en partie de la langue dans laquelle écrit le romancier. En français, il me semble possible, en cas de besoin, de remonter dans le temps de 2 ou 3 siècles sans gêner le lecteur. On peut, si nécessaire, employer dans les dialogues la langue du XVIIIe siècle ou même du XVIIe. À 2 conditions, toutefois. La première, c'est qu'il faut lui ôter tout ce qu'elle aurait d'exagérément couleur locale. Surtout pas de « si fait mamie »,« peste soit du faquin »,« ah fourba bélitre, j'enrage », non. Et il convient d'autre part de maintenir un certain rapport de ton entre les divers éléments du récit pour pouvoir mixer le tout sans former de grumeaux. Les cuisinières présentes ici comprendront très bien ce que je veux dire. C'est pourquoi la langue de la narration elle-même devra rester sobre, classique, tenue. On obtiendra ainsi, dans le dialogue, un effet de réel suffisant, tout en évitant par ailleurs une impression pénible de rupture et de patchwork. En revanche, si le roman se passe avant Malherbe, je déconseille tout à fait le recours à la langue originelle des personnages. Charlemagne et Socrate parlaient d'or, assurément, mais c'est une monnaie qui n'a plus cours. On est en droit alors, et même on a le devoir, d'adapter, de traduire, de transposer. Mais jusqu'à quel point ? Peut-on, dans un roman médiéval, par exemple, remplacer le trop fameux « Hola, tavernier du diable » par « Ousquilès, bistrotier de Médeux » ? Oui, c'est permis, c'est même amusant, mais je ne conseillerais pas d'en abuser, car tout langage parlé trop relâché, argotique, exagérément branché, est condamné à se débrancher très vite. Dans un demi-siècle, nos descendants ne comprendront pas mieux le verlan du 9-3 que la langue des trouvères. Tenons-nous-en le plus possible à du moderne classique, si j'ose cet oxymore. De toute façon, il est prudent, dans un roman historique, de réduire au minimum le recours au style direct et au dialogue. Le dialogue, ce procédé si commode dans un roman-roman, qui permet tantôt de tirer à la ligne, on connaît les dialogues balzaciens, ah oui, bien sûr, non, où êtes-vous bon. Ou tantôt de faire avancer l'action, qui se trouve annoncée, expliquée par le dialogue, résumée en peu de choses par l'un à l'autre. Bon. Eh bien, cette facilité est généralement interdite aux romanciers du passé. Bien d'autres techniques stylistiques lui sont encore déconseillées ou deviennent pour lui d'un maniement délicat, surtout lorsque dans le récit, il se met à la place d'un des personnages et voit par ses yeux. Je citerai à titre d'exemple, de forme de style difficile à utiliser, la comparaison, la métaphore, celles qui viennent naturellement sous la plume d'un homme d'aujourd'hui empruntent presque toujours l'un de leurs termes à un objet, une sensation, un comportement postérieure à l'époque où l'on aura placé le roman. Il faut beaucoup de connaissances et d'imagination pour pouvoir retrouver non pas les idées, c'est relativement facile, ni les sentiments, c'est faisable, mais les équivalences, les images qui viendraient spontanément à l'esprit Mettons par exemple d'une petite fille gallo-romaine du IIe siècle qui voit la mer pour la première fois. À quoi va-t-elle naturellement comparer cet objet-là ? Le romancier ne parviendra à le deviner, si on peut dire, qu'au prix d'un dépouillement progressif de son être, d'une régression raisonnée qui doit le ramener au plus près d'un corps d'autrefois, avec ses gestes, ses instincts, sa sensualité, ses perceptions les plus élémentaires, la chaleur d'une pierre, la fraîcheur du vent, le goût de l'eau. Voilà un travail de forme et de fond que le lecteur ne verra pas, qu'il ne voit jamais, et c'est pourtant la pierre de touche du roman historique. Je ne m'attarderai pas sur les autres problèmes littéraires spécifiques que rencontre l'écrivain qui veut rendre la vie à des morts. Je n'en mentionnerai qu'un, qui se pose aussi à l'auteur de romans contemporains, mais pas du tout dans les mêmes termes. Il s'agit de savoir si l'auteur peut ou non être présent dans son livre. Doit-il intervenir dans le récit ou s'effacer tout à fait ? Si le roman se passe aujourd'hui, le romancier est libre de choisir son parti. C'est affaire de construction romanesque et d'esthétique. Si le roman se passe dans le jadis, pour reprendre l'expression de Pascal Quignard, les choses se compliquent. Bien sûr, l'intervention directe du narrateur dans le récit présente certains avantages. Non seulement elle permet au romancier de moderniser la forme, la construction de son roman, mais sur le fond, elle l'autorise à reprendre ses distances. Il peut dès lors, pour éclairer son lecteur ou pour l'amuser, opérer des rapprochements avec sa propre époque ou retrouver le droit de prononcer des jugements de valeur et de tirer des leçons. Bref, il n'est pas dupe. Et vous savez combien il importe aujourd'hui de ne pas paraître dupe. Le roman historique ainsi conçu paraîtra au lecteur plus accessible et aux critiques plus neuf, plus intéressant esthétiquement. C'est sans doute pourquoi il me semble, par exemple, que les romanciers anglo-saxons choisissent assez massivement ce procédé, plus que les Français. Il a pourtant ses inconvénients. En apparence plus actuelle, le roman historique construit de cette manière sera aussi plus vite démodé. Supposons pour rire, alors là c'est vraiment pour rire, qu'il existe un roman sur l'Antiquité écrit par un chroniqueur du Moyen-Âge. Et imaginons que pour plaire à son public de gens, dames et de beaux seigneurs, qu'il faut bien amuser un peu, cet auteur se soit adressé directement au lecteur ou à l'auditeur en l'espèce. Lui explique les choses, lui donne son avis, transpose les situations, multiplie les clins d'œil et les sous-entendus. Par exemple, il nous peindrait les combats de gladiateurs en utilisant le vocabulaire des tournois. Il traduirait les mille romains en lieues et les sesterces des grosses fortunes en écus. Il réviserait les recettes d'Apicius à la lumière du ménagier de Paris. Et il raconterait les amours d'Auguste en faisant des allusions cryptées aux liaisons du duc de Bourgogne. Eh bien, en 2005, on n'y comprendrait plus rien. Il nous faudrait assimiler les règles de la chevalerie pour saisir celles de la gladiature, convertir en euros les écus pour retrouver les sesterces, et tout connaître des ragots sur le duc de Bourgogne pour deviner ce qu'on disait de l'empereur Auguste. Impossible, illisible, bon à mettre au panier. Ça ne signifie pas que dans le roman historique, j'en tienne nécessairement pour une forme de narration traditionnelle et transparente, du type « il était une fois ». Non, puisqu'il m'est arrivé de m'introduire comme auteur dans certains de mes romans, et que je compte bien à l'occasion recommencer, mais toujours en gardant conscience des limites très, très étroites qui me sont imposées. Car, plus encore que dans le roman historique est affaire de proportions justes, de sensibilité, d'habileté, bref, d'art. Techniquement difficile, et toujours assez mal vu des ayatollahs. Pourquoi le roman historique continue-t-il à attirer certains auteurs ? Parce qu'il a du succès ? Non, je dirais plutôt, moi, qu'il est en perte de vitesse. Son succès dépendait des connaissances historiques du public et surtout de son appétit pour le passé. Or, non seulement les générations montantes ont été peu formées à l'histoire, pour la génération de mes enfants, l'histoire commence en 1914, mais le passé ne les intéresse plus. Et là, c'est une vraie rupture. J'en vois la preuve dans la manière dont certains jeunes romanciers français peignent notre époque. Quand il y a 15 ans, j'écrivais un roman, comme là sans pareil, je montrais notre temps comme une conséquence des temps antérieurs. Il pouvait m'arriver, pour expliquer tel ou tel phénomène social ou politique, de remonter à l'Ancien Régime ou à l'Empire turc. Aujourd'hui, ceux qui décrivent l'époque contemporaine, qui, comme Houellebecq, en font la satire, considèrent cette époque non plus comme un résultat, mais comme un point de départ. Ils ne se situent plus dans une perspective historique, mais dans une optique d'anticipation. Il semble qu'on ait rompu la chaîne des temps. En tout cas, il y a renversement. Les romanciers à la mode voient notre présent comme le passé du futur. Au terme de cette analyse un peu désenchantée, suis-je capable de vous dire pour quelles raisons je continue moi-même à écrire des romans historiques ? La vérité est que depuis l'enfance, je cherche à comprendre ce qui me rend plus proche du pire des Jivaros que du meilleur des chiens. Qu'est-ce que j'ai en commun avec les derniers cannibales de Nouvelle-Guinée, avec un cavalier mongol, un kamikaze irakien, une prostituée birmane, un moine tibétain ? Pour le savoir, il faudrait voyager, et beaucoup. Mais, je dois vous l'avouer, je n'ai pas le goût des voyages. Je déteste l'avion, je ne peux plus conduire, j'ai le mal de mer, je ne supporte que les climats tempérés et j'ai besoin d'un excellent sommier. Voilà pourquoi, sans bouger de mon fauteuil, je pars dans le temps. J'y rencontre des hommes, divers, changeants, déconcertants. Je les regarde vivre et tuer et mourir. Il n'y a pas de nature humaine, paraît-il, sans doute. Pourtant, le Jivaro et moi, le Carthaginois et moi, nous appartenons bien à la même espèce animale. Il suffit parfois d'une larme que j'aperçois, d'un sourire que je crois deviner, un instant, par-delà l'océan des siècles, j'ai l'illusion de l'avoir trouvé, enfin trouvé, cet étranger pareil à moi.
C'était l'écrivain Françoise Chandernagor devant l'Académie des sciences morales et politiques en séance publique le lundi 10 octobre 2005. Titre de sa communication, peut-on écrire des romans historiques ? Vous pouvez retrouver l'intégralité de la transcription du texte de cette communication ainsi que de toutes les communications publiques prononcées devant l'Académie des sciences morales et politiques. Pour ce faire, vous allez sur le site internet de l'Académie www.asmp.fr.